Bonsoir à vous tous pour cette lecture. Alors là, on va entrer dans l'Évangile quand même, après avoir fait pas mal de premier testament, comme on pourrait dire, hein, parce que si on veut pas... Maintenant, le mot ancien a un peu changé de sens. Donc quand on dit ancien testament, ça fait comme un vieux machin qu'on jette à la poubelle parce que ça sert plus, quoi. Non, c'est ancien comme un meuble est ancien, c'est au contraire une noblesse. Donc voilà, on entre dans le Nouveau Testament, parce qu'on a pensé quand même qu'en cette période de l'Avent, ça s'y prêtait. Donc on a choisi un texte un peu curieux quand même, où Jésus est face à l'échec, dans un certain sens, dans son pays, voilà, dans son village ou dans sa ville, je ne sais pas si Nazareth était bien important. Donc ça pose toujours un peu des questions, ça change peut-être du Jésus qu'on a toujours connu, ou qu'on s'imagine, le Jésus qui est dessiné sur les images pieuses. Donc c'est une occasion de redécouvrir aussi, et puis d'en faire une lecture spirituelle, c'est-à-dire de voir en quoi ça nous concerne directement, cette histoire. Donc on a notre lectrice toujours, peut-être, qui va nous lire, non? Ou alors, non? Vous voulez qu'on lise? Ah, ça c'est gentil. Donc...
Il s'en alla et retourna dans le village de ses pères. Ses disciples le suivaient. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ceux qui l'entendaient, troublés, disaient « D'où sort-il cette sagesse ? Et cette puissance, qui agit par ses mains ? Ce n'est jamais pourtant que le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude, de Simon. » Ses sœurs vivent ici parmi nous. Ils butaient là-dessus. Un prophète, leur dit Jésus, n'est méprisé que dans son village, dans sa famille, dans sa maison. Il ne pouvait pas, là, faire acte de puissance. C'est à peine s'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Il s'étonnait de leur méfiance. Il parcourait pour enseigner les bourgades des environs. Il rassembla les 12 et entreprit de les envoyer deux par deux, en leur donnant autorité sur les souffles impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton. Pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture, juste des sandales aux pieds. Et pas de tunique de rechange. Quand vous arrivez quelque part, entrez dans une maison et tenez-vous-y jusqu'à votre départ. Si on vous accueille mal, si on ne vous écoute pas, alors allez-vous-en et secouez la poussière de vos pieds. Elle portera témoignage contre vos hôtes. Ils partirent donc prêcher la conversion, chasser de nombreux démons, frotter d'huile de nombreux malades et les guérir.
Eh bien, merci beaucoup pour cette lecture. Donc, finalement, nul n'est prophète en son pays. Ça, c'est quand même quelque chose qui est une phrase qui est bien connue. En fait, d'ailleurs, c'est même passé dans le langage courant, je pense. C'est devenu un des lieux communs de la langue française, peut-être. Hein. Nul n'est prophète en son pays. Alors, la question, c'est comme souvent, en fait, dans ces histoires, par exemple, de Jésus, est-ce que ça concerne que l'histoire de Jésus avec son village de Nazareth? C'est la même chose quand, par exemple, dans l'Évangile selon Jean, on commence, il y a marqué la lumière, ou cette parole hein, qui est créatrice, cette parole qui est Dieu lui-même, elle éclaire tout homme dans le monde. Et ensuite, l'Évangile selon Jean dit, mais en fait, les siens ne l'ont pas reçu. Alors peut y avoir une lecture en disant les siens ne l'ont pas reçu, c'est les Juifs qui n'ont pas reçu Jésus, par exemple. Et donc, ceux qui l'ont reçu, c'est nous, finalement. On est les bons, vous voyez, et puis les autres, voilà. Donc ça, c'est la question, c'est que... où on se met dans ce récit, finalement? Comment en faire une relecture pour nous, dans notre existence aujourd'hui? Donc, Nul n'est prophète en son pays. En quoi est-ce que nous, on est concernés finalement par cette lecture? Où on se place dans ce texte? Ça peut y avoir un certain nombre de pistes finalement hein, pour essayer de comprendre, de s'approprier ce texte. Mais d'ailleurs, s'il est dans l'Évangile, de toute façon, par définition, ça a une portée universelle pour tous les temps et pour tous les pays, pas simplement pour les Nazaréens qui seraient montrés du doigt ou pour les Juifs finalement, hein, qui voilà, comme si Jésus n'avait pas été reçu par les Juifs et que donc c'est des choses qu'on peut entendre hein, en disant bon ben, les Juifs n'ont pas reçu leur Messie, donc ben du coup c'est les païens qui en ont hérité et puis. Voilà, ben non, c'est un peu plus compliqué que ça, je crois. On ne peut pas faire une lecture aussi simpliste, je crois.
Oui, alors d'autre part, ce qui est intéressant, nous sommes à Nazareth. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait rare, même si d'ailleurs on peut remarquer que la ville n'est pas nommée en soi. Il s'agit de la patrie. Ce qui est d'ailleurs un concept assez intéressant parce qu'au fond, c'est un concept qu'on emploie souvent. On a tous une patrie, une mère patrie. Et donc, lorsque cette année nous avons décidé de nous intéresser à toutes ces cités glorieuses et ces cités importantes de la Bible, je crois que c'est important de faire cette halte à celle qui devrait être la patrie de toutes les patries. Et qui, d'ailleurs, j'y pense en vous le disant, ne l'est pas. C'est-à-dire que, voilà, Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est vraiment à Nazareth que nous devons aller le rencontrer? On se posera la question autrement avec Jérusalem. Cette fameuse Jérusalem, qu'elle soit celle du ciel ou celle ou la Jérusalem terrestre. Mais avec Nazareth, la question prend d'autant plus d'acuité. Une question qui nous concerne tous, puisque nous avons tous un pays d'origine. Nous avons tous une mère patrie ou une terre patrie. Et en même temps, je crois qu'à Paris, on le sait peut-être encore plus qu'ailleurs, on vient de toutes les patries, on vient de toutes les terres, et on sait, pour des tas de raisons d'ailleurs, qu'on n'est pas prophète en son pays. Mais c'est quelque chose qui, on va le voir, s'adresse à toutes nos origines familiales, presque religieuses, ethniques, sociales, culturelles. Et au fond, ce n'est pas parce qu'on en procède que c'est là où on est le plus à l'aise, et ce n'est pas parce que l'on vient de tel endroit que c'est là où l'on est le mieux entendu. Et je crois que avec Jésus, on peut vraiment comprendre un certain nombre de choses sur la religion chrétienne à partir de cet attachement ou non à la mère patrie. Dans une religion qui, je vous le rappelle, était celle dans une géographie où on prenait la religion du lieu d'où l'on était issu et dans un peuple qui pense être celui de la terre promise et où la patrie est plus importante que jamais. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant de voir qu'aujourd'hui, le judaïsme procède d'une terre qui est considérée comme, entre guillemets, sacrée et ayant une importance. Or, il semble bien qu'ici, il y a un certain nombre d'éléments qui semblent nous indiquer que non seulement notre famille, j'allais dire génétique, n'est pas plus sacré que notre famille religieuse, mais au contraire, il semble bien que la famille génétique soit beaucoup moins positive que la famille apostolique, que la famille des disciples, des frères. Et il y a d'autres textes où Jésus, interpellé sur sa mère et ses frères et sœurs, répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Ma mère, ce sont ceux qui m'écoutent, et mes frères, ce sont ceux qui mettent en pratique ce dont je parle. Alors c'est pour nous tous qui sommes issus de liens familiaux, de liens géographiques, de liens régionaux, ces paroles peuvent être un petit peu choquantes. Mais en même temps, il y a quelque chose en nous qui comprend aussi la portée réelle de cette histoire. Alors je crois que ça vaut le coup d'aller la creuser, d'aller faire ce petit périple à Nazareth, en nous disant d'ailleurs que dans cet évangile, c'est bien la seule fois que Jésus y séjourne, il n'y reviendra jamais. C'est peut-être pas anodin, en tout cas l'évangéliste nous situe cette histoire-là pour, j'allais dire, passer au chapitre suivant. J'allais dire pour régler une histoire, pour régler l'histoire d'une famille, pour que nous comprenions. Et je crois, lorsqu'on est dans un baptême, on dit toujours, au fond, il y a la première naissance, hein, la fameuse naissance dans une famille, et puis il y a cette naissance en Christ. Et je crois que quand on lit un peu cette histoire, on est peut-être dans ces deux niveaux. On comprend bien aussi les liens du sang et les liens de l'amour, les liens de la fraternité. Donc je crois que c'est une petite histoire, c'est un passage dans cette cité qui n'est pas anodin, qui peut nous dire beaucoup de choses sur le sens de notre existence de chrétien, qui ne nie pas nos origines, qui ne nie pas nos familles, nos patries, mais qui leur donne peut-être un sens véritable pour comprendre ce que nous avons à faire et à vivre, j'allais dire, avec précisément des gens qui ne sont pas de notre famille, qui ne sont pas de notre région, qui ne sont pas de notre patrie et qui sont nos frères et nos sœurs. Alors je crois qu'on peut y aller.
Oui, c'est... Alors cela dit, bon, c'est vrai que quand on dit que Jésus n'est pas bien reçu, ou qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa famille finalement, peut-être que ça nous concerne directement nous en tant que chrétiens aussi, parce que effectivement, si Jésus est si familier qu'on croit le connaître très très bien, s'il est si familier que ça, si on ne se laisse pas étonner par Jésus finalement, mais c'est ce que je crois que c'est ce qu'on fait un peu avec ce texte, si on ne se laisse pas étonner par Jésus, ben finalement, sa parole n'est plus prophétique pour nous. C'est quelque part, il fait partie des meubles, quoi. On sait ce que Jésus a toujours raconté, on le connaît très bien. Bon, du coup, ça ronronne doucement. Et finalement, sa parole n'est plus prophétique pour nous. Donc, il faut savoir avoir un Jésus qui nous dérange, qui nous gratte, qui nous pique, qui nous étonne, qui nous surprenne. Un Jésus qui est un peu un extraterrestre pour nous. Et ça, je crois qu'il faut, il faut arriver à, qu'on ne soit pas simplement dans la famille des baptisés, puis que tout va bien. Alors, c'est un peu une difficulté, nous, en tant que, par exemple, accompagnants des familles. On dit des fois en rigolant, consoler les affligés, réconforter les affligés, et puis il faut des fois affliger un peu les trop confortables. C'est un peu la question. Quand il y a, par exemple, des obsèques, bon, on vous dit, en même temps, il faut dire, tout est bien, il est bien là où il est, etc. Mais il ne faut pas que tout le monde se suicide en sortant non plus. Si la mort est si belle, vous voyez, ou si on dit, de toute façon, le lien n'est pas rompu, il ne faut pas pleurer, c'est faux en même temps. Et si c'est quelqu'un, par exemple, de très, très croyant qui meurt, on ne peut pas dire... on peut dire quand même, il y avait quelque chose derrière, quoi. Les gens admirent cette personne, on peut essayer de dire, écoutez, quand même, il y avait quelque chose qui était derrière. Donc c'est toujours difficile quand on accompagne des familles, ou pour un mariage, c'est pareil. Pour un mariage, c'est pareil. On peut dire, on peut avoir des paroles quand même qui sont très, très, très mielleuses, finalement, et tout le monde sera très content, ou on peut essayer de déranger un peu aussi. C'est toujours délicat, c'est toujours un peu difficile. Ça pose peut-être la question aussi de savoir comment témoigner. Comment témoigner ? Est-ce qu'il faut avoir une parole finalement familière, qui ne surprenne pas ? Est-ce qu'il faut une parole qui soit dérangeante, comme celle de Jésus, quitte à ce qu'on soit face à l'échec ? Ça, c'est quand même des questions qui se posent, la question de la... en même temps... Il faut, pour être entendu, il faut rejoindre son auditeur. En même temps, si on le rejoint tellement que la parole n'est plus prophétique, et si la parole est trop prophétique, du coup ça saute comme ici, c'est-à-dire que du coup plus rien ne passe. Donc là, je crois que ça pose quand même une vraie question, et dans notre relation de foi, et dans la manière de témoigner aussi aux autres, non ?
Oui, et je vois une dernière question qui nous concerne tous, qui est celle précisément de la transmission. Une question que bien des grands-parents et des parents se posent. Pourquoi des gens que l'on connaît tous, hein, qui sont très engagés, qui font des choses merveilleuses, eh bien, dans leur propre famille, ne sont pas du tout suivis? Pourquoi tant de gens qui ont fait des choses très bien, leurs propres enfants ne mettent pas les pieds au temple ou à l'église et ne s'intéressent pas du tout à la recherche, au questionnement? Pourquoi y a-t-il... Eh bien, il y a sûrement quelque chose aussi de cet ordre-là. Peut-être, au fond, c'est parce que rien ne doit être automatique, parce que justement, on ne naît pas chrétien, c'est pas transmis par le sang, mais on le devient, parce que peut-être que chacun a à le devenir, quel que soit ce qu'a fait son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère. Peut-être que ça doit suivre d'autres voies, mais c'est certain que c'est une question que l'on entend souvent. Tant de... C'est vrai, hein, on le sait, surtout en Europe, la pratique vieillit. Pourquoi y a-t-il de telles ruptures? Et pourquoi des parents qui disent, mais enfin, toute leur enfance, ces enfants ont fait le catéchisme, ont pratiqué. Et puis, tout ça, c'est comme si ça n'avait pas existé. Comme s'il y avait des ruptures même de génération, ou familiale, ou je ne sais quoi. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose de cela là-dedans. Non pas qu'il faille souhaiter à tous les chrétiens d'avoir des parents surtout pas chrétiens, puisque la transmission quand même, grâce à Dieu, et on le sait, dans toutes nos traditions, elle s'est faite de génération en génération, et les évangiles et les évangélistes et les apôtres sont les premiers à avoir compris et diffusé. Simplement, ça ne s'est pas fait de manière génétique. Ça ne s'est pas fait justement d'un peuple qui a transmis, non. Ça s'est fait par des rencontres, ça s'est fait par des contacts, ça s'est fait par des moments, et que personne ne possède. Il n'y a rien d'automatique. Alors c'est à la fois consternant, parce que voilà, alors comme diraient des grands-parents, mais pourquoi je me suis échiné à les traîner à l'église toutes les semaines? Pourquoi j'ai... Eh bien, en même temps, c'est plutôt rassurant parce que, un, ça ne se fait pas comme ça, là, par usure, à l'usure. Et en même temps, à l'inverse, nul ne peut savoir comment ça marche non plus. Mais je crois que c'est une question qui peut nous venir aussi à l'esprit quand on voit la façon dont Jésus lui-même est accueilli par ses propres cousins, voisins et frères.
Oui, alors... Le passage dont tu parlais, je crois que c'est un peu plus haut dans l'évangile selon Marc, je crois que c'est au chapitre 3 ou au chapitre 4, non? Effectivement, Jésus est en train d'enseigner dans une maison et il y a une foule nombreuse qui est autour. Et il y a sa mère et les frères de Jésus, donc c'est peut-être pas les fils de Marie, c'est une autre question.
Oui.
En tout cas, visiblement, c'était la fratrie, donc c'était peut-être des fils de Joseph, c'est peut-être des... Voilà, ou c'est peut-être des fils de Marie après, parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Hein.
C'est le 8 décembre aujourd'hui, hein, l'Immaculée Conception.
Mais ça n'empêche pas.
Ben voilà.
Ça n'empêche pas. Donc, en fait, de toute façon, quoi qu'il se passe, il y a la mère et les frères de Jésus qui arrivent et qui disent, mais en fait, il est tellement concentré dans son ministère de Messie ou de prophète, on ne sait pas, enfin, je veux dire, à l'époque là, comment il pouvait comprendre ça, qu'il ne prend même pas le temps de manger. Et donc... Oui, ils se disent, mais il faut qu'on s'en saisisse pour le faire nourrir, sinon il va tomber dans les pommes. Notre frère bien-aimé.
Notre cousin.
Oui, je ne sais pas, il ne parle pas de cousin, mais c'est... Mais enfin bon, donc...
Dans les familles.
Ah bon, dans les familles. Donc voilà, donc bref, ils veulent se saisir de ça. Donc on voit bien qu'à cette époque-là, en tout cas au début du ministère, on voit qu'ils n'étaient pas chrétiens, si je puis dire. Ils n'étaient pas disciples du Christ. Ni Marie, ni les frères. Et je crois que c'est beau, c'est que ça devient après, parce qu'à la fin, on sait très bien que Marie était disciple de Jésus.
Et Jacques.
Et Jacques, ce qu'on appelle le frère du Seigneur, on le connaît, il n'était pas dans les 12 apôtres, mais il était ensuite chef des apôtres dans Jérusalem, en fait. Donc il était au-dessus même de Pierre et de Jean. Donc en fait, c'est ça qui fait penser que historiquement, Jacques était frère de Jésus, était dans sa famille, avait au moins un lien de sang avec lui. Sinon, jamais ce Jacques, frère du Seigneur, qui n'était même pas dans les 12 apôtres, serait devenu chef des premiers apôtres, qui étaient Pierre et Jean, indubitablement, historiquement. Donc, je trouve que c'est assez beau de voir Jésus comme ça, finalement, se déranger, si je puis dire, de son ministère d'évangélisation général, je veux dire, de se déranger pour aller évangéliser sa famille, finalement. Et ça, je trouve que c'est déjà un témoignage. C'est vrai qu'on a parfois, et je dirais, bon, ça, c'est peut-être pas sympa de dire ça, mais dans l'Église, il y a des gens qui s'occupent, qui sont extrêmement militants hein, dans leur Église et qui oublient un peu leur famille. Ça peut être le cas de pasteurs, par exemple. C'est peut-être les curés ont bien raison. Je veux dire, l'Église catholique a dit, bon, on peut pas être... C'est pas pour des raisons théologiques, finalement, hein, que les curés n'ont pas le droit de se marier. Je crois que c'est pour des raisons très pratiques. Enfin, tu iras mieux que ça. Mais je préfère quand c'est moi qui le défends, parce que sinon, il aura l'impression de vendre sa chapelle. Mais je crois qu'effectivement, ça peut se défendre, parce que, voilà, on dit le ministère de service de l'Église, bah, c'est 24 heures sur 24, et c'est un peu trop pour avoir une famille en plus. C'est simple question d'organisation du travail. Et on peut dire qu'effectivement, c'est pas très facile. Mais quelqu'un qui serait médecin de campagne, toujours sur les quatre chemins pour aller soigner les gens, c'est pas facile non plus d'avoir une vie de famille. Donc Jésus se dérange de son truc pour aller voir... Mais il y a des tas de gens qui ont un travail très prenant, qui oublient un peu leur famille aussi. Donc il dit, il faut quand même penser à la famille, penser à son pays aussi. Quoi. Ça, je crois que c'est déjà un témoignage qui est sympa. Et puis, ses disciples les suivirent dans le premier verset. C'est peut-être la première définition des disciples, oui, c'est de suivre. Ensuite, on verra qu'il y a un peu plus, hein, puisqu'il y a un moment où il faut, au contraire, arrêter de suivre pour se détacher de son maître et aller partir dans d'autres horizons et passer de la contemplation à l'action, puisqu'il y a toujours un peu ces deux volets hein, dans la vie chrétienne, de la contemplation et de l'action. Donc là, ils sont dans la suivance, ils sont à la remorque un peu, bah oui, à ce temps-là, ce temps de formation, ce temps où on se nourrit, ce temps où on s'aime soi-même finalement, en se laissant nourrir par Dieu, en écoutant la parole. Et puis après, bah, y a le temps de partir en mission, d'aller aider des gens, d'aller faire ce qu'il faut. Alors ensuite, on voit Jésus, bon, qui, quand le sabbat fut venu, qui rentre dans une synagogue et qui enseigne. Donc on pourrait dire que Jésus, bon, il est connu pour ne pas trop respecter le sabbat, mais quand même, j'allais dire, il est un pratiquant libéral, quoi, en fait. C'est un juif libéral qui pratique le sabbat, qui va à la synagogue. Bon, s'il a autre chose à faire ce jour-là, ben, il le fait. Il n'est pas dans l'observance étroite, scrupuleuse. Bon, il est dans... une pratique libérale de la religion. Et c'est vrai que cette phrase de Jésus, moi, je trouve très importante. Elle n'est pas là, mais le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Voilà. Donc, le sabbat, la religion, est un moyen au service de l'humain, au service de la foi, au service de la relation à Dieu. Ça, je crois que c'est bon de le rappeler. Ça remet la religion à sa place. Ben, donc là, il va à la synagogue, comme il l'a fait sans doute toute sa vie, voilà, en général. Et il se met à enseigner parce que, bon, il semble que Jésus avait une vraie connaissance biblique, talmudique, et sans doute aussi de philosophie grecque, finalement. Donc ça en faisait un lettré même cultivé, et donc sans doute un bon prédicateur, je pense, intéressant.
Oui, et d'ailleurs, si l'on regarde de très près les versets, là, les versets 2 et 3, on comprend que l'auditoire, d'abord l'auditoire est nombreux, hein, donc en effet, et c'est pas du tout une question de principe, hein, on l'écoute, mais ce qui est très surprenant, et c'est là que ça devient un enseignement aussi sur la réaction humaine, au fond, regardez... On lui reconnaît une sagesse. Le mot « Sophia », qui n'est pas n'importe quel mot, est employé. C'est la sagesse, hein, c'est un philosophe. On lui reconnaît des miracles, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas celui que l'on connaît. Car il y a inadéquation dans l'esprit des gens entre ce qu'il est, ce charpentier, fils de charpentier, ce voisin, ce fils de Marie, et il doit rester à sa place. Et voilà qu'il enseigne comme un grand rabbin, comme un grand... qu'il est thaumaturge. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est scandaleux. C'est-à-dire que quelque part, il ne reste pas à sa place. Il est catalogué. Il est le Jésus de Marie et de Joseph, là, le voisin, etc. Et voilà-t-il pas qu'il prend la place de je ne sais quelle caste sacerdotale ou philosophique. Et donc, oui, on pourrait dire qu'il y a erreur de casting. C'est pas possible. C'est pas possible. Au lieu de s'émerveiller de ce qu'un Jésus, fils de Joseph, puisse arriver à une telle sagesse et à produire ses miracles, eh bien, contrairement d'ailleurs aux autres foules, hein, qui n'en demandent pas moins, qui n'en demandent pas plus pour suivre et pour vouloir en faire un roi, voilà au moins que dans sa patrie, il est motif de scandale. La traduction est assez bonne. Ils étaient butés, hein, rebutés, ou c'était un sens tout à fait premier, en effet, à la fin du verset 3. La réaction scandalizzonto qu'ils ont traduit.
Et ils butaient là-dessus.
Ils butaient, voilà. Vraiment, c'est une pierre d'achoppement, voilà. C'est pas possible. Seulement, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ce qu'il dit, c'est très bien. Ce qu'il fait, c'est très bien. Mais c'est pas possible que ce soit lui qui fasse et qui dise. Ce qui est proprement scandaleux. C'est que pour le coup, on ne peut admettre que quelqu'un que l'on connaît, que quelqu'un, j'allais dire, qui est issu de nos rangs ou qui est semblable à nous, soit meilleur, soit grand, soit plus proche de Dieu. Il y a quelque chose de la jalousie de Caïn face à Abel. Enfin, il y a quelque chose qui passe pas. Et du coup, Jésus, de conclure... Eh bien oui, un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Et d'insister d'ailleurs, et parmi ses parents, et dans sa propre maison. Ce qui semble être, ce qui est devenu d'ailleurs un proverbe, ce qui semble être un constat lucide, mais déplorable sur l'humanité. Car quel dommage. Mais cela rejoint bien des remarques qu'on peut se faire, vous savez, dans la politique, dans plein de secteurs, où l'on dit un tel, il avait tout, il avait le talent et tout ça. Simplement, ils n'ont pas accepté que ce soit lui, voilà. Et donc la jalousie, ils l'ont dégommé, ils l'ont fait tomber, etc. C'est de la très vieille histoire. Et finalement, ce constat lucide, oui, mais n'essayons pas d'être prophète dans notre propre patrie. Ça conduit même à une certaine modestie. Vous savez, souvent, mais j'imagine que c'est vrai dans toutes les églises, mais c'est souvent de ses propres amis ou de ses propres proches qu'on est le moins encouragé, enthousiaste. Par ce phénomène un peu naturel qu'il n'y a pas de raison. Qu'on puisse sortir des choses meilleures. Enfin, c'est plus le nivellement par le bas que par le haut. Et c'est une histoire qui est, au fond, hyper classique. Et quelque part, ça nous fait beaucoup de bien de voir Jésus la ressentir, la vivre. Et alors ça, c'est la première chose, lui-même, dans sa propre maison, dans sa propre famille, dans sa propre patrie. Mais c'est la même histoire que celle du peuple d'Israël à Jérusalem. Et c'est ce que Jésus pleurera amèrement, les larmes du Christ devant Jérusalem. C'est Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. C'est toujours la même histoire. Et au fond, on parlait tout à l'heure du Premier Testament. Combien d'histoires de prophètes, justement, qui ont d'abord été rejetés par leur ville, par leurs propres frères, précisément à cause de la vérité de ce qu'ils proclamaient. Et bon, enfin... Mais voilà. En tout cas, là, on est au cœur de l'humanité, dans l'humanité même de Jésus, dans sa proximité, dans sa... J'allais dire même dans ses premières années. Car quelle déception quand même, hein. Le comeback n'est pas du tout agréable. Et cette vie de pérégrination, c'est pas quand à un moment il n'avait pas de pierre poser sa tête, en tout cas c'est pas dans sa patrie hein, qu'il pouvait se ressourcer. Bon, voilà plein de choses qui nous rappellent plein de choses personnelles, familiales.
Alors, oui, effectivement, hein, c'est pas un grand succès. Cela dit, je trouve sa prédication, elle a quand même un succès, c'est qu'en fait, les gens s'étonnent, c'est-à-dire
Ah
se posent des questions. Et ça, c'est quand même bien, parce que finalement, mais ça, on le remarque souvent, Jésus se débrouille pour enseigner, et le résultat, c'est que les gens se posent des questions, en fait, très souvent. Et ça, je crois que c'est bien, c'est-à-dire que peut-être que tu posais la question tout à l'heure, comment arriver à témoigner auprès de nos proches? Peut-être c'est qu'au moins ils se posent des questions. Parce que souvent les gens ont des idées très simples sur la religion, sur Dieu, sur dire bon, ben, il est catho. Alors ça y est, claque, l'étiquette est posée. Et les gens savent ce que c'est, mais ils le savent d'une manière trop simple, trop simpliste. Il y a 1 million de sortes de chrétiens, si vous voulez. Il y a des sensibilités très diverses. Voilà, quand on catalogue les gens, quand même, souvent, c'est un petit peu simple. Alors là, il se pose des questions et il sente quand même, il sait d'où ça lui vient, d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée. Vous savez, quand il y a un passif comme ça dans le texte de la Bible, c'est ce qu'on appelle un passif théologique, ça veut dire forcément c'est Dieu qui a donné, quelque part. Un passif sans sujet, c'est toujours comme ça. Ou alors, comment de tels miracles se font-ils, comment de tels actes de puissance, en fait, se font-ils par ses mains? Donc ils sentent bien finalement que ce n'est pas Jésus qui est habile ou Jésus qui est sage. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu qui agit à travers lui. Donc en fait c'est hyper bien vu quand même sur ce coup. Voilà. Alors ensuite, donc ils sentent quand même quelque chose. Ils se posent des questions, ils sentent qu'il y a une sagesse qui vient de Dieu et qu'il y a là une puissance qui vient de Dieu. Ça je crois que c'est intéressant au passage de noter que l'évangile, si vous voulez, c'est une sagesse. Je crois qu'il y a une philosophie, c'est vrai, une philosophie chrétienne qui n'est pas du tout stupide. On peut en dire ce qu'on en veut. On peut très bien ne pas croire en l'existence de Dieu, c'est-à-dire d'une puissance transcendante qui serait à l'œuvre dans le monde. Écoutez, c'est très discutable, je reconnais. Moi, je serais plutôt favorable à ça. Mais c'est peut-être que, si vous voulez, un athée pourrait nous dire. Oui, quand vous sentez la présence de Dieu de temps en temps dans la prière, ben vous vous faites un film en fait. Bon, très bien, je veux bien le croire. Mais quand même, il y a une sagesse chrétienne, il y a une philosophie qui n'est pas du tout nouille, si vous voulez. Car vraiment, franchement, ça prête à se poser des questions et à réfléchir. Et je trouve que ça mérite déjà amplement de fonder son existence sur cette philosophie chrétienne qui me semble magnifique, basée sur l'idée de création, de respect, de pardon, de vision positive, pleine d'espérance sur chaque être humain. Vous voyez, il y a des choses quand même qui sont formidables. Mais dans l'évangile, il y a autre chose. Il y a aussi des actes de puissance qui vont au-delà simplement de la simple sagesse. Et à travers la prière, ce n'est pas simplement une auto-analyse où on se place face à cette sagesse de l'évangile en considérant nos propres actes et notre propre vie. Il y a aussi une ouverture à cette puissance surnaturelle pour que quelque chose puisse voilà, nous guérir peut-être, comme le fera Jésus. Voilà, c'est ça dont il parle finalement. Alors je crois qu'il y a les deux. Effectivement, je crois que là, c'est bien vu, c'est bien senti. Donc, quelque part, la prédication rejoint son auditoire. Mais, comme tu le dis, ben voilà, ils ont leurs préjugés, leur précompréhension. Et du coup, alors qu'ils en étaient à la porte finalement, alors qu'ils avaient saisi le truc, j'allais dire, ils le disqualifient immédiatement. Et ça, c'est quand même dommage. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement sclérosés dans leur truc que ben finalement, alors qu'ils l'avaient en main pratiquement, la clé du salut, elle ne fonctionne pas. Fonctionne pas. Alors ça, je remarque quand même, c'est assez souvent, je vois par exemple des gens qui nous disent, voilà, il y a un tsunami, bon ben quand on voit ce qu'on voit, comment peut y avoir un bon Dieu? Je ne crois plus en Dieu. Ben, je veux dire, il ferait mieux de changer de notion de Dieu, de changer de théologie, je veux dire. Ils ne se remettent pas en cause une seconde, ils ont une certaine idée de Dieu, ça cadre pas avec leur vision, leur conception de la réalité. ils n'ont pas l'idée une seconde d'évoluer dans leur conception, dans leurs préjugés, dans leur machin, bien trop fatigant, bien trop... D'accord, ça demande à tous une souffrance d'évoluer dans nos préjugés, etc. Tous, il faut faire le deuil de quelque chose que nous étions hier. Il faut mourir quelque part, comme le disait Paul, être crucifié pour ressusciter à un autre nous-mêmes le lendemain, une autre théologie, une autre foi, peut-être. C'est fatigant, ça fait souffrir dans un sens, mais c'est une bonne souffrance. C'est une souffrance comme quand on a des courbatures quand on grandit à l'adolescence, si vous voulez. Oui, sûrement. Ou quand les dents poussent. Bébé, ça fait mal quand les dents poussent. Je veux dire, c'est quand même pratique d'avoir des dents. Quand on les perd, on rigole moins. Donc, voilà, je crois que c'est là. C'est dommage parce que, voilà, ils y étaient, mais voilà, ils sont bloqués par leur sclérose. Voilà. Alors oui, je dirais par rapport à l'existence du mal dans le monde, bah, évoluons dans notre théologie et pour que. Alors souvent, mais ça c'est un peu la faute des théologiens, pour pas trop se fatiguer, dire ah mais c'est le grand mystère de la foi, mais c'est pas une réponse ça. On peut pas cacher les incohérences de nos théologies en disant c'est le grand mystère de je ne sais quoi. Ça va pas si vous voulez. Dieu est au-delà du rationnel, mais il est pas irrationnel. Et jamais l'intelligence a été contraire à la foi, et encore moins à notre époque maintenant que ça ne l'a jamais été. Si vous voulez, il y a des théologies qui sont intelligentes, qui sont raisonnables et qui sont compatibles avec et la bonté de Dieu et l'existence du mal dans le monde. Donc il faut se poser un peu des questions, évoluer là-dessus. C'est pas compliqué du tout. Je veux dire, c'est quand même simple. Mais il faut accepter d'évoluer dans sa théologie, dans ses conceptions, dans sa foi.
Alors, ce qui est très étonnant, si j'ose dire, dans cette histoire, si on la poursuit, c'est que précisément, regardez l'évolution de Jésus lui-même face à cette histoire. Voilà qu'il en conclut qu'un prophète n'est pas vraiment prophète dans sa patrie, encore moins chez ses parents et encore moins chez lui. Mais il en a même des conséquences en lui-même. C'est que lui-même ne pouvait pas faire là de miracles. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'au fond, il ne peut y avoir de miracle que si on croit? Donc, face à l'absence de foi, eh bien, il y a absence de miracle, première chose. Et puis surtout, nous dit l'évangéliste, il s'étonnait à cause de leur absence de foi. C'est-à-dire, voilà, qui est le plus surpris dans l'histoire? C'est lui. C'est lui parce qu'il a peut-être du mal à comprendre une telle, un tel manque de cœur et d'intelligence de cœur. Oui, ils ont tout compris, en effet, c'est bien lui, ils l'ont bien reconnu. Ils ont bien saisi la portée de ce qu'il dit, l'importance de ses gestes. Seulement, ils n'arrivent pas à admettre que tout aille ensemble. D'une certaine façon, ils sont un peu comme ceux qui veulent bien reconnaître que Dieu est Dieu, mais que ce n'est pas possible qu'un homme puisse être Dieu. C'est insupportable, parce que, comme tu disais tout à l'heure, leur Dieu ne peut quand même pas s'abaisser au point de devenir un homme. C'est-à-dire qu'on tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que Dieu ne peut pas être Jésus. Et ça, c'est l'autre côté de la chose. C'est quelque part, comment imaginer ce Dieu tout-puissant? Et si Bérulle dirait Dieu si grand et moi si petit? Et comment l'homme, ce néant, peut être Dieu? Eh bien, en Christ, justement. Parce que l'homme est capable du meilleur et parce que l'homme est capable de Dieu. Et ça, c'est évidemment difficile à comprendre si on ne comprend pas Dieu. Et Jésus qui lui-même a du mal à comprendre que les hommes soient aussi bornés, si j'ose dire, au sens le plus premier du terme. Et bien, il est pragmatique. Et ça ne marche pas ici, donc Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter, c'est qu'on va conclure que ce n'est pas chez soi, ce n'est pas dans les plus proches que l'on doit absolument s'arc-bouter, parce qu'il y a des raisons, des tonnes de raisons, que la psychologie, des tas de sciences humaines peuvent nous expliquer, l'histoire, je dirais même la génétique, enfin, il y a des tas de raisons qui font qu'on a des blocages, et bien, puisque ça ne marche pas ici, bien nous allons à la ronde, et là, à la ronde, Jésus va retrouver, j'allais dire, sa force, son pouvoir, et son premier pouvoir, qui est celui de pouvoir appeler à sa suite, ce qui apparemment lui est pas possible à Nazareth même.
Il y a une question, oui.
Je voulais simplement dire que sur le plan psychologique, on trouve toujours un Jésus extrêmement humain. Et la réaction, la difficulté qu'il a accepté que ses proches, au fond, n'ont pas la foi, je trouve que c'est quelque chose de très très humain. Parce que on a tous connu ça, au fond, que nos proches soient pas, et pas toujours les qualités qu'on voudrait leur voir, ou, soient pas chaleureux, ou etc. Enfin, c'est vrai que c'est plus pénible, plus quelqu'un est proche, plus c'est pénible, plus c'est difficile à accepter, plus on a ce type d'interrogation, mais comment ça se fait, et puis peut-être aussi l'interrogation par rapport à soi-même, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour les convaincre, enfin, moi, je trouve
oui,
que
c'est une
un
bonne
peu
question.
Le côté très humain du Christ.
Oui, ça c'est vrai, tout à fait.
Qui vraiment te touche.
Alors c'est vrai, donc cette question que tu soulevais, Hervé, avec l'incarnation finalement, c'est-à-dire c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il discerne bien qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu, qui ne peut venir que de Dieu, mais comment c'est possible dans notre copain d'enfance finalement.
Voilà, ça c'est pas possible.
Et donc c'est vrai que là, objectivement, les familiers de Jésus avaient forcément plus de difficultés à saisir ce saut, voilà, ce saut. Alors, pourtant, Jésus fait un effort, à la limite, en se présentant comme prophète. Ils auraient, parce que prophète, bon, il l'est certainement. Bon, il est quand même plus que ça aussi. Donc, c'est déjà, à la limite, les aider, quoi. C'est déjà assez sympa de les aider. C'est qu'il ne met pas la barre trop, trop haut, à la limite. Parce que, bon, il se serait dit, c'est que, voilà, le Christ a plus de mal à être reconnu dans sa famille. S'il se présentait comme Christ, les autres se seraient marrés, parce qu'ils avaient joué des parties de foot avec lui, il avait peut-être fait des bêtises avec lui à l'école, enfin, comme on... il y a des tas de petites légendes pieuses, hein, dans les évangiles apocryphes, où on voit Jésus jouer avec ses camarades d'école. C'est un petit peu navrant parfois, mais on peut... Bon, il a sans doute eu une enfance aussi, donc... Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant ici qu'il y a une ébauche de théologie de l'incarnation, c'est-à-dire vraiment de Dieu qui se fait homme, alors que dans un évangile comme l'évangile selon Jean, c'est dit plus explicitement, dans un sens, c'est dit plus explicitement, bon, avec le prologue, par exemple, avec la parole qui s'incarne en Jésus-Christ. C'est dit plus explicitement peut-être aussi dans les évangiles selon Matthieu et selon Luc, avec la conception miraculeuse, justement, la conception, l'immaculée conception, non, la conception virginale de Jésus. Dans l'évangile selon Marc, il n'y a pas de ça, finalement. Il est fils de Dieu par le baptême, hein, par le baptême, par cette voix qui le reconnaît comme fils. Donc c'est finalement, il est fils de Dieu par la vocation, par l'adoption de Dieu peut-être, par un supplément de l'esprit qui lui est donné. Mais là, on voit peut-être dans cet épisode justement quelque chose qui se dit de Dieu qui se fait homme, hein, ou Dieu qui... La parole de Dieu qui s'incarne plutôt, la parole et la puissance de Dieu qui s'incarne. Alors je ne sais pas si c'est... Là, ce n'est pas Dieu entièrement, car toujours Jésus marque la distance entre lui et le Père, mais il y a quelque chose de Dieu qui s'incarne là, visiblement, en Jésus-Christ, dans ce texte.
Oui, je voudrais dire qu'il y a aussi dans ce combat entre la personne que l'on connaît et celles que l'on voit représenter des choses importantes. Il y a aussi beaucoup de choses de ce que l'on a du mal à reconnaître, que des gens que l'on connaît, effectivement, puissent faire des choses qui les dépassent eux-mêmes. Aujourd'hui, on est dans un problème, vous savez, de notoriété. Tous les gens connus, qui font des choses bien. On va déjà gardons cela, ça en enlève un certain nombre. Mais voilà, imaginez des gens connus qui font des choses bien. Eh bien, vous avez toujours des gens, rabat-joie, qui vont vous expliquer qu'ils font des choses peut-être très bien, et je ne vais pas donner des exemples, mais que, oh là là, nul n'est bien pour son valet de chambre, hein, vous savez, et que donc, la fameuse sainte machin, ou la sœur bidule, ou sans aller là, monsieur X ou madame machin, peut-être qu'elle a fait des choses bien, mais alors si tu savais comme elle était odieuse, et les ordres qu'elle donnait, et machin. Et moi j'ai envie de dire, mais ils n'ont rien compris ces gens-là, parce que, ben oui, et c'est d'ailleurs très rassurant, même nos grands saints ont fait des bêtises. Même les gens qui font des choses bien font des choses pas bien. Quelle surprise! Ben alors nous qui ne faisons que des choses bien, ça nous surprend beaucoup. Mais voilà, il n'en reste pas moins humain. Et j'ai envie de dire que, voilà, c'est l'idée aussi que même quelqu'un qui, par ailleurs, est un peu autoritaire ou n'est pas très patient avec des enfants ou je ne sais pas quoi, peut faire des choses très bien. Oui, votre voisin peut faire des choses bien, même s'il range mal sa voiture devant son parking ou je ne sais pas quoi. Enfin, et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais des gens qui font des choses bien, on arrive à en trouver, mais vous avez toujours le livre trash qui vient vous dire que oui, mais bon, hier, il a fait trop de bruit et qu'avant-hier, il a mal parlé à sa maman quand il avait 4 ans. Mais sûrement, c'est sûrement vrai. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Et si ce monsieur conduit à la paix entre deux pays qui sont en guerre, et si cette dame permet la réconciliation, eh bien, tant mieux. Et cessons de vouloir trouver que, oui, mais elle porte des pas jolies chemises ou que monsieur a fait mal du ski. On s'en fiche. Et j'ai l'impression que... Alors, pour Jésus, c'est tout autre... C'est tout. Mais il y a de ça aussi. C'est comment ça se fait. D'ailleurs, vous avez vu sa sœur, quand elle avait 16 ans. Mais, et alors? Est-ce que vraiment c'est ça qui compte? Et donc, peut-être l'étonnement de Jésus, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il ne fait que des choses bien. Mais il est juste le fils de Marie et Joseph, et déjà, ça ne va pas, quoi. Il ne peut pas... Donc, bon, je pense que ça doit nous faire réfléchir aussi sur cette, voilà, cette capacité. Parce qu'on peut tout critiquer, tout rejeter. Et alors? Et qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais ça, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Parce qu'en fait, bon, quand même, dans la théologie chrétienne, on dit qu'il y a quelque chose de christique un peu en chacun, si vous voulez. Et donc, on nous invite à reconnaître dans l'autre ce qui est christique, ce qui est la part divine, la part christique de la personne qui est en face de nous. Et alors, c'est vrai que, bon... quand on a une connaissance superficielle, on peut être étonné et saisir au passage, par exemple, les grandes figures, je ne sais pas quoi, hein, les grandes figures des grands témoins de la foi. Mais reconnaître dans son frère, hein, sa sœur, qu'il y a quelque chose de christique, ben, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que du coup, si on s'habitue à ça et si on arrive, hein, tant soit peu, à le faire, à ce moment-là, eh bien, cette part christique qui est dans l'autre et qu'on n'avait pas vue parce qu'on le connaît trop bien, l'autre qui est à notre côté, cette part christique, eh ben, elle peut être source de salut pour nous et source de guérison, source de résurrection pour nous. Donc, si on arrive à avoir cette bienveillance-là, cet amour-là, finalement, qui permet de dénicher peut-être le petit pourcent de christique dans une personne qui est à 99% mauvaise, ce petit pourcent, d'abord, il est remis sur le dessus dans la personne, donc ça peut sauver la personne, qui du coup se découvre elle-même un peu christique. Se découvre reconnu comme valant quelque chose, comme pouvant être porteuse de vie. C'est déjà peut-être formidable pour la personne. Et puis au passage, ben, pour nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que Si on trempe sans arrêt son œil dans la mauvaise partie de quelqu'un, dans ses petits défauts et dans le fait qu'il fait mal du ski, ben sans arrêt, si vous voulez, on est tiré vers le bas. Alors que si on s'attache à rejoindre ce côté christique, ben sans arrêt, on va être touché de quelque chose qui est source de résurrection et de vie. Alors, comment est-ce que, finalement, Jésus donc, ne peut pas faire de miracles? Et pourtant, comme prophète, il n'est pas reçu, pas reconnu, mais il est méprisé, voilà. Il ne peut faire aucun miracle, nous dit le texte, mais quand même, il imposa les mains à quelques malades et les guérit.
Ah oui.
C'est intéressant, parce qu'il y a un peu paradoxe là dans l'affaire.
Oui.
Alors d'abord, on peut remarquer que le fait... alors là, le mot miracle, hein, ce n'est pas le mot signe comme dans l'évangile selon Jean, par exemple, c'est le mot qui veut dire un acte de puissance, donc un acte de création, je dirais. Et effectivement, imposer les mains, c'est un geste de bénédiction, certes, comme on peut en avoir dans nos cérémonies. Hein. C'est un geste qui est millénaire, multimillénaire, bien sûr. Mais c'est, le mot bénir, c'est un peu trop faible, à mon avis, dans les langues latines. C'est un peu simple. Bénir, c'est dire du bien. C'est déjà sympa de dire du bien des gens. Mais c'est un peu plus que ça, la bénédiction, quand même. C'est plus que de dire du bien. Justement, ces mains qui sont ouvertes ou tendues, ça veut dire un acte de création, finalement, une volonté de création, volonté de donner la vie, donner un supplément d'être. C'est quand même ça, la bénédiction, je crois. C'est créé dans le domaine du spirituel, j'allais dire. Et quand on dit que Dieu ne fit rien le septième jour de la création, c'est un peu rapide, parce qu'en fait... le septième jour, c'est le jour de la bénédiction, et c'est pas rien, la bénédiction. C'est un acte de création aussi, mais c'est une création dans l'ordre du spirituel, à l'aube du septième jour. Et là, c'est ça, finalement, quand il impose les mains à quelques malades et les guérit. Ça, c'est aussi donc un geste de bénédiction, un geste de création qui est donné, et je crois que... C'est bien le projet de Dieu, c'est ce qu'apporte le Christ. Ça, il semblerait que s'il n'y a pas la foi de l'homme, ben, c'est moins facile pour Dieu. Je ne dirais pas que ce n'est pas possible, parce que là, quand même, malgré leur manque de foi, compréhensible, hein, on vient de le dire, donc ce n'est même pas une question de culpabilité, mais ce n'est pas la question finalement. Hein, c'est bon, voilà, il y a un manque de foi. C'est un frein, un obstacle à ce salut de Dieu, malgré toute sa bonne volonté, finalement, bien sûr, évidemment. Ça, je crois que c'est quand même c'est à noter. Il y a eu un accord, donc on en a déjà parlé, entre les protestants et les catholiques vers l'an 2000, je ne sais plus quand, sur la
98.
Déclaration commune pour la justification, en disant évidemment oui, l'amour de Dieu n'a aucune cause. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas la foi, ce n'est pas les œuvres qui font que Dieu nous aimerait plus. Voilà. Dieu nous aime, point, c'est sa liberté, c'est son choix, c'est la grâce. La question quand même, c'est que bon, Dieu est là, en Christ, il nous bénit, il veut nous donner la vie, et il faut quand même saisir ça par la foi, quand même. Alors, c'est pas absolu, parce que, quand même, Dieu se débrouille assez bien, mais on voit, ça patine quand même un peu, vous voyez. Même Dieu, sa puissance est limitée par la non-participation de l'homme. Voilà, c'est plus compliqué. Mais ça, on le voit bien, hein, avec la pédagogie. Si vous voulez éduquer un enfant... s'il ne veut vraiment pas apprendre, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Alors, il finira peut-être à force de rabâcher, à force d'exemple, à force de tirer, pousser. Quand même, il y a de l'espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Dieu ne perd jamais espoir, même malgré tout le manque de foi. Il se débrouille pour se replacer sur notre chemin. Et puis, en définitive, à mon avis, il finira quand même par y arriver. Mais quand même, le manque de foi est un véritable frein à la puissance de Dieu, qui est donc limitée par ça.
Alors oui, mais je vais mettre un petit bémol à ce que tu viens de dire. Précisément, si on regarde de près aussi, mais un texte jusqu'à quel point on peut le saisir, on peut aussi interpréter que Il ne peut faire aucun miracle sur les gens en général, parce que d'abord, c'est toujours très dangereux de faire. J'ai horreur des généralités. C'est-à-dire que même à Nazareth, et notre ami Abraham savait bien ça, même à Sodome et à Gomorre, il trouvera bien quelques justes. Et c'est-à-dire que même à Nazareth, il y a des gens, il y a sûrement des gens de bonne volonté. Mais là, on parle de la majorité, voilà, en général, on est mal reçu. Et donc, il peut pas en faire, parce qu'il se heurte à une telle... il peut pas en faire, sauf, sinon, à un petit peu d'infirme. Ah, c'est pas n'importe qui, les infirmes. C'est justement... ce sont les gens, a priori, c'est pas ceux qui... Les infirmes, à mon avis, c'était pas eux qui protestaient et qui résistaient. Donc, même dans des lieux où on est mal reçu, il y a toujours des gens à sauver, d'abord. Et bien sûr, qui sait, c'est plutôt pas les chefs, etc. C'est plutôt les plus... Autrement dit, il peut quand même... guérir, alors je sais pas, c'est peut-être ma lecture, donc il peut quand même imposer les mains et guérir quelques infirmes, et là il s'étonne à cause de l'absence de foi, c'est qu'il a beau faire ça, ça change rien, parce que franchement, je veux bien qu'on ne croit pas en Jésus de Nazareth, le charpentier, mais s'il y a des infirmes au milieu de nous, même quelques-uns, qui sont guéris, ça mérite quand même qu'on se pose la question. Et là, apparemment, même ça, ça passe pas. Et c'est un peu le problème de Jérusalem aussi, parce que, vous savez, toutes ces paraboles de difficultés là, avec le maître de la vigne, qui a confié la vigne à quelques... et puis, ils ont mal géré tout ça, alors il va les changer. Et puis il va envoyer. Alors il y a ça d'abord, c'est qu'il va finir par les changer. Mais d'abord, avant d'avoir décidé ça, le maître, il a commencé par envoyer un ouvrier, le représentant, qui bien sûr se fait molester. Et puis ensuite, il en envoie deux, trois. Et puis il y en a un qui est tué, etc. Et il envoie son propre fils. Je veux dire là, il a même son propre fils. Et le fils, il est tué.
Pourtant, le projet, dans le texte, c'était qu'il serait respecté.
Oui. Donc, vous voyez, il y a quand même... Alors, moi, je revois un peu de ça. C'est-à-dire qu'il est mal reçu. Bon, mais comme, d'abord, un, il est débordant d'amour et d'envie de sauver, eh bien, il sauve les plus faibles, là, les plus... Et il se dit, cela, au moins... Mais que nenni, quand on ne veut pas, on ne veut pas. Et quand on est borné, quand on est buté, eh ben, il n'y a rien à faire. Voilà, bon, oui. Mais on pourrait lire de 10 manières différentes, hein. Mais je crois que tout ça nous enseigne beaucoup. Et c'est ce que je disais à Marc en venant ce soir, c'est que ce texte, qui a l'air de rien, cette petite histoire dont on tire un proverbe, bon, on a compris vite le sens, bon, on voit, oui, c'est rarement dans son propre intérieur, c'est peut-être pas là qu'on est le mieux perçu et compris, bon. Bah, une fois qu'on a compris ça, bah, voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui est dit là-dedans, dans cette petite histoire. Et il y a beaucoup du problème humain face à Dieu, justement. Il y a beaucoup de la difficulté, et je crois qu'il y a beaucoup à comprendre de se dire, mais bon sang, pourquoi les gens ne croient pas ? Eh bien, parce que c'est pas si évident, et que même Dieu, Dieu, il aimerait bien qu'on croie tous. Je crois que c'est plutôt le but, hein. Le but, c'est pas d'en choisir quelques-uns et puis de dire bon, bah, personne ne croira et je m'en fiche. Je crois pas que ce soit ça, Dieu. Je crois que c'est pas si simple, parce que bon sang, même avec le Christ, on n'a pas tout solutionné, même si. Alors là, c'est l'espérance qui vient, même si le combat, il est gagné. Il est gagné. Mais bon sang que c'est dur. Et là, à Nazareth, et ben voilà. Et ben c'est... Alors du coup, après, on voit, j'allais dire, c'est tellement facile, on voit les disciples ensuite, mais on comprend pourquoi c'est si... Pourquoi c'est... Parce que ça a l'air rude hein, d'être disciple hein, quand même. Hein. Faut rien emporter sinon un bâton, ni pain, ni besace. Dis donc, il faut avoir vraiment la foi. Hein. Et voilà, ça ne peut pas se faire à moitié. Parce que les deux histoires se complètent très très bien. Celle des problèmes. Pourquoi ça ne marche pas, Dieu et les hommes? Pourquoi là où Dieu devrait être le mieux reçu, eh ben, il a un mal fou à passer. Et puis à la limite, c'est de là où on ne s'y attend pas que ça passera. Et donc, pourquoi il faut envoyer des gens deux à deux dans des conditions assez spartiates, mais avec des règles assez précises, etc. Et c'est aussi ce que je disais d'ailleurs à Marc, c'est que au fond, en relisant toute l'histoire de Jésus, on comprend bien que c'est si peu facile qu'on ne peut pas dire que l'histoire humaine de Jésus soit une formidable réussite. Parce qu'au final, là, on le voit, il commence chez lui, ça ne marche pas bien. Il va ailleurs, bon, il y a des foules, il y a des gens qui le suivent. Mais enfin, allons jusqu'à la croix, franchement, hein, c'est pas... Là, il a l'audimat est pas très bon, hein ça marche pas bien toute cette histoire. Mais comment ça se fait? Voilà, parce que vous savez, quand on est au catéchisme et tout ça, j'y pensais ce matin avec les enfants. Alors, à les écouter, ils suivent tous Jésus. Ah, ils sont tous pour Jésus. Et puis, si vous commencez par leur dire, bon, ben, tu vas donner ton pain au chocolat, quoi? Ça se complique. Voilà. Donc, dans l'absolu, moi, je me dis, mais pourquoi on ne suit pas tous Jésus? C'est pas si simple, c'est pas si facile, et c'est pas si humain. Et pourtant, c'est pleinement l'humanité, et c'est pleinement... Et c'est ce décalage, hein. Et Jésus, même ses disciples, des gens très bien, bah, regardez donc le résultat à la croix, hein. Ils sont tous dans le fossé, hein. Et voilà. Et on se dit, mais c'est pas possible. Moi, j'aurais croisé Jésus. Il m'aurait donné les pouvoirs de... Oh, ben, Superman, je deviens... C'est pas comme ça que ça marche.
Ouais. Alors, Jésus est face à cet échec. Donc, voilà, il voit que ça marche pas trop bien. Mais quand même, moi, je trouve qu'il a... Voilà, il réagit face à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de lui, pareil, de baisser les bras, d'abord, bon... Comme tu dis, finalement, il prend quand même ce petit reste. C'est-à-dire qu'il voilà, il s'est dit, bah, il y a quand même, on va faire ce qu'on peut, quoi. Et ben, le petit peu qu'on peut faire, il le fait quand même. Donc ça, je trouve que c'est quand même sympa. C'est ce que je disais un peu pour la, bon, tout à l'heure, la maîtresse d'école qui a un élève un peu nul. Bon, ben, elle essaye quand même de faire ce qu'elle peut, puis au moins de le faire progresser un petit peu. C'est déjà, je trouve que c'est déjà une bonne piste. Ne pas, lui non plus, il va pas cataloguer, bon, Nazareth, il n'y a rien à en tirer. Non.
Non.
Bah, il fait ce qu'il peut faire. Il y a deux, trois infirmes, donc ils auraient pu être méprisés. Bah non, voilà, il y a deux, trois infirmes qui vont mieux. Bah, c'est déjà ça. Voilà, on a déjà fait ce qu'on a pu. Et puis ensuite, il s'étonne, mais du coup, il parcourt les villages alentours en enseignant. Bon, bah, il fait un peu le tour du problème, il va aux marges. Voilà, c'est aussi une autre façon de prendre bon, le petit reste qui peut déjà progresser, de sauver. Et sinon, ben, les alentours, on peut peut-être travailler comme ça aussi. Ça peut être vrai pour nous aussi, personnellement, quand on a du mal à avancer, parce que finalement, c'est cette lecture que nous proposons aussi, c'est de nous dire, voilà, nous aussi, on a du mal à progresser, à avancer, à se convertir. Et il y a quelque chose dans la chair qui nous retient, c'est ton histoire de pain au chocolat, c'est ça. En même temps, bon, la tête, on est bien convaincu que, je dirais, partager avec quelqu'un qui meurt de froid dehors et qui n'a rien mangé, il a besoin de mon pain au chocolat, plus que moi, qui déjà avait plutôt crevé de mon cholestérol que de... C'est vrai qu'un pain au chocolat, c'est rudement bon quand même, donc ça fait réfléchir. Donc, là aussi, c'est le corps qui retient, finalement. Eh bien, voilà, il faut... On peut travailler là-dessus, voilà, on peut travailler là-dessus sur la périphérie, c'est-à-dire voilà, sur ce qui peut déjà être touché, ben, même si c'est un peu la périphérie de l'être, même si c'est un peu quelque chose d'infirme en nous, ben, on va déjà travailler là-dessus. Voilà. Et puis ensuite, ben, puisqu'il tire quelque chose d'intéressant, il dit, puisque ça ne marche pas quand on est familier, eh ben, il va falloir finalement s'y mettre à plusieurs. Parce que moi, je n'aurai pas le temps de courir partout. Donc il va envoyer donc, les 12 qu'il envoie deux par deux. Alors dans le codex de Bèze, hein, des manuscrits les plus originaux peut-être hein, du Nouveau Testament, ils disent, il appela les 12 disciples, comme s'il n'en avait que 12 à cette époque-là. Donc là, on est effectivement dans le petit, quoi, finalement. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas encore apôtres, puisque c'est après qu'ils vont être envoyés, dans un sens. Et puis peut-être que, si vous voulez, du temps de ce codex de Bèze, le terme d'apôtre n'était pas devenu encore un label, finalement.
Un nom générique.
Un nom générique pour définir une fonction dans l'Église, ce qui viendra seulement après. Là, il y avait des disciples, concrètement, c'était des disciples qu'il va envoyer deux par deux et les envoyer un peu partout. Donc effectivement, c'est une façon, puisque ça ne marche pas avec les familiers, on va les envoyer vers l'extérieur. Et puis, puisque quand on est trop familier, il y a quelque chose de cette parole prophétique qui s'émousse. Quand il les envoie deux par deux, je me demande si ce n'est pas ça finalement. C'est que quand ils sont deux, il y a un écart quelque part. Et donc du coup, dans cet écart, il y a toujours quelque chose qui va être paradoxal, qui va poser question, qui va déranger et qui va forcer au déplacement, forcer à la réflexion et briser les précompréhensions, les schémas. Donc moi, je crois qu'effectivement, le pluralisme et même la pluralité des théologies et des églises, quand c'est fait comme ça, c'est pas pour faire la pub pour notre glorieuse, action œcuménique, mais je crois qu'il y a là quelque chose qui peut être parfois dans le paradoxe, dans la tension ou dans les points de vue différents. Eh bien, justement, c'est ce qui a même de faire poser des questions, de faire réfléchir, et du coup, de se laisser convertir par Dieu qui nous rejoint, voilà. Et donc ce deux par deux, c'est ça que ça apporte, c'est que l'évangile ne peut être annoncé finalement qu'en stéréo, quoi, en relief, avec une tension féconde. C'est pas non plus la tension de l'absurde ou de la contradiction pour la contradiction, mais une tension qui fait réfléchir, voilà. Et puis peut-être que cette idée un peu de l'ascétisme dans un certain sens, hein. D'avoir pas de monnaie, pas de pain en réserve, pas de sac pour mettre peut-être réserver deux jours d'aumône, de pain mendier, ne pas avoir deux manteaux, c'est peut-être pour que le message soit relativement clair, c'est que quelque part il faut pas trop se centrer sur le, faut un peu se détacher du seul visible, de la seule matière. Il n'y a pas d'idée que dans les évangiles, dans la Bible, que la possession soit mauvaise, par exemple. Je ne crois pas. Il n'y a pas l'éloge de la pauvreté particulièrement, pas du tout. D'ailleurs, il y avait plein de gens riches qui étaient dans les gens qui suivaient Jésus, dans les gens qui l'accueillaient, on le sait très bien. Il y avait des femmes riches, des hommes riches, il y avait des gens qui manquaient de rien. D'ailleurs, Pierre et Paul, Paul, je ne sais pas, il avait un artisan de causeur de tente, mais enfin bon, c'est autre chose. Mais Pierre, il avait une industrie de pêche, ce n'est pas ridicule. Et on le voit après la mort de Jésus, bon, il avait repris son entreprise de pêche. Bon, ce n'est pas la pauvreté, hein. C'est un bon job, une petite entreprise familiale, mais enfin bon, ce n'est pas des grands bourgeois, hein. C'est pas Dassault, mais cela dit, bon, c'est quand même la classe moyenne, non, je ne sais pas. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de honte du tout, ce n'est pas la question. Donc je ne crois pas que ce soit de dire, voilà, pour être apôtre, il faut faire le vœu de pauvreté. Non, je crois que ça fait partie du langage, quelque part. Eux-mêmes doivent avoir ce sort de détachement. Et puis peut-être que dans la manière dont ils arrivent, en disant, attention, voilà des gens pour qui a l'important chez ces gens, visiblement, volontairement, délibérément et clairement, c'est pas le matériel, quoi.
Oui.
Donc ça fait chercher au-delà, peut-être, non ?
Oui. Oui, alors là encore, ces textes peuvent être lus, relus, de manière un petit peu différente. Comme toujours, L'intérêt, c'est d'avoir aussi quelques textes complémentaires, hein, puisqu'on a les autres évangélistes. Il y a plusieurs textes d'appel. Je pense notamment chez Luc à l'appel des 70, etc. Il y a quelques règles comme ça. Alors, là aussi, ça prête à discussion parce qu'il y a des ordres mendiants qui ont justifié précisément leurs règles d'austérité sur ces paroles évangéliques. Ce qui est intéressant, je crois, comme toujours, c'est que ça a plusieurs... C'est à géométrie variable. De ne pas, évidemment, de ne pas être trop alourdi. Bon, voyager léger, bon. Mais je crois qu'il y a deux autres choses. Il y a la confiance. Parce que quand même, si vous faites des provisions, c'est que vous avez peur de manquer. Bon, donc déjà, ne pas avoir 36 000 provisions, c'est qu'a priori, on n'est plutôt pas inquiet. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je crois, on est dépendant. Et d'autres textes nous disent « Mais là où vous irez, nourrissez-vous de ce que l'on vous donnera, car tout travail mérite salaire. » Et Paul a beaucoup discuté là-dessus parce qu'il disait « Mais oui, mais on doit gagner son... » Il y a eu beaucoup de discussions dans les ordres religieux. Doit-on gagner sa vie? Doit-on dépendre de la communauté, etc., etc. Et l'idée, c'est que, justement, on ne doit pas s'occuper de tout. Et que donc, si on évangélise des gens, il est normal qu'ils vous prennent à leur charge. Donc, alors, il y a cette idée-là. Il y a aussi, lorsqu'on est autosuffisant, j'allais dire, on a besoin de personne. Mais ces disciples, ils ont quand même besoin d'être nourris. Ils ont quand même besoin d'être logés. Ils ont quand même besoin des autres. Mais en même temps, ça ne doit pas être ni par envie, par appât du gain, ni automatique. Donc il y a une certaine... Enfin, vous voyez, il y a toute une... Tu parlais tout à l'heure d'une sagesse. Je crois qu'il y a aussi tout un style de vie. Il y a évidemment une certaine austérité. C'est-à-dire que vivant ainsi, on ne peut pas être dans l'opulence. On ne peut pas être surgras. On ne peut pas avoir un taux de cholestérol énorme parce que ce n'est pas possible quand on n'a pas de quoi se changer, quand on n'a pas... Enfin, il y a quand même... Alors, c'est là qu'après, dans les interprétations, il y a eu tous les excès possibles et imaginables, hein, jusqu'à bannir toute possession, etc. Et on sait qu'au nom du christianisme, on ne s'en est pas privé. Jusqu'à... il fallait être maigre, famélique, malade et tout ça. Non, il ne faut pas prendre les choses... Je pense qu'on est arrivé... Je pense que, comme toujours, il y a toujours des excès, et que ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est un équilibre de vie. Je pense que même par rapport aux Écritures, là aussi, hein, il y a des gens qui ont appliqué radicalement. Voilà. Il y a des lectures radicales et fondamentales, fondamentalistes, au pied de la lettre. Alors, on n'a ni pain, ni besace, ni dans la ceinture de sous de bronze. Oui, bon, bah, oui, ben, ça fait belle lurette que j'ai plus de sous de bronze dans ma ceinture. Mais si j'ai une carte bleue, je m'en fiche bien de ne pas avoir des sous de bronze. Mais il y a quand même l'idée quand même d'une certaine sobriété. Et je crois aussi que le fait d'être à deux permet plus ce genre de sobriété que déjà tout seul. Parce que quand on doit se débrouiller tout seul, c'est plus difficile. Alors ça dépend, il y a d'autres gens qui me diront qu'au contraire, tout seul, on part sans bagage et on s'en fiche bien. Alors qu'à deux... Mais il me semble quand même qu'à deux, il y a des choses qui sont plus faciles. Même de se débrouiller, même de s'organiser, de faire du stop, d'être hébergé, enfin bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir la façon dont Jésus organise, la façon dont il leur donne confiance, les ordres aussi qui sont donnés d'entrer, de rester. Alors, ça paraît même bizarre quand on prend littéralement « Où que vous entriez, restez là jusqu'à que vous en sortiez. » Bon, c'est intéressant, ça paraît vraiment idiot comme chose. Mais ça veut dire vraiment quelque chose. Ça veut dire « Soyez-y, jusqu'à que vous en soyez parti, vous êtes là. » Ne commencez pas à penser à où vous serez demain. Il y a quand même une philosophie du « N'aie pas peur du lendemain. » Te demande pas de quoi tu vas vivre demain. Sois dans le présent, vis-le, Et en gros, dans d'autres textes aussi, il est dit, t'inquiète pas.
À chaque jour suffit sa peine.
Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Et puis Dieu, même le deux têtes du moineau, là, on t'arrachera pas de deux cheveux sur la tête, tout est compté, et Dieu y pourvoira, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Mais je crois qu'il y a... Alors du coup, voilà, face à ce petit scandale-là qu'on vient de vivre, ce petit traumatisme de Nazareth, il y a toute une... Il y a toute une réalité évangélique. Bon, d'ailleurs, il est prévu que quand ça marche pas, bah, il faut secouer la poussière, il faut proclamer, il faut vraiment obtenir des conversions et il faut jeter dehors les démons. Et ce que l'on voit, c'est que ça marche. Voilà, nous dit le, ça a l'air de bien aller, hein, après cet échec de Nazareth. Il y a l'envoi des 12, et là, ça marche. Donc, il y a un certain nombre de règles à respecter, peut-être pas de proximité d'ailleurs, familiale et autres, mais en tout cas, ayez confiance. Donc, voilà qui équilibre bien notre texte.
Alors, c'est vrai que Jésus les roule pas dans la farine, si je puis dire, parce que déjà, dans la manière de se préparer, l'échec est déjà préparé, finalement, parce que quand il leur dit de ne rien prendre, mais quand même de prendre un bâton, bah, c'est quand même quelque chose, un bâton. Et de quand même chausser des sandales. Donc, moi, je trouve qu'il y a là quand même une annonce comme quoi ils vont quand même dans un monde difficile. C'est-à-dire que la marche sera longue, ça veut dire qu'il y aura des cailloux sur la route, ça veut dire que, bon, peut-être ça va monter, il faut appuyer sur le bâton pour s'aider à monter. Ou bien des fois il y a des pentes escarpées, on a envie de se tenir un peu sur le bâton, ou bien des fois il y a des loups, des voleurs, il faut se défendre. Donc on va dans un monde quand même où il y a une difficulté. Et ça, je crois qu'on le trouve quand même assez souvent. Jésus dit par exemple dans l'évangile selon Jean, il dit ben écoutez, de toute façon, c'est forcément ça sera un peu difficile parce que vous êtes à la fois du monde mais hors du monde. Donc vous êtes quand même en tension avec ce monde, donc il y a quand même une adversité. Et ça, je crois quand même, comme chrétien, comme quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui est peut-être un peu qui a une parole prophétique, oui, il y a quand même adversité quand même dans le monde, non ? Enfin, je ne sais pas. Même si on ne cherche pas le martyr, même si on essaye bon, d'être en bon terme avec ses voisins, on a quand même... parfois, une parole, une attitude qui dérange ou qui... Voilà, un peu forcément. Donc, puis on est dans un monde où il y a une nature qui est quand même... qui est quand même aux prises encore avec le chaos, une nature qui peut faire du mal. Et puis on est dans une humanité bah, où il y a des gens qui sont méchants aussi, voilà, qui peuvent avoir un comportement méchant. Les gens ne sont pas méchants à 100%, mais bon. Et puis dans l'idée effectivement que voilà, il y a des fois des endroits où il faudra secouer la poussière des pieds. Bah, donc ils savent hein, que bon, ça ne sera pas forcément très facile partout. Ouais, voilà, d'accord. Donc ils savent que voilà, ça ne va pas forcément être facile. Alors peut-être dans le verset 10, tu disais voilà, faut rentrer dans une maison et y rester tout le temps. Il y a peut-être l'invitation à pas trop zapper. Moi, je dirais, j'avais une question. Là, des gens sur Internet ce matin, justement, qui disaient ils sont un peu entre deux églises, entre deux paroisses, machin. Et donc, effectivement, moi, je leur disais qu'importe, finalement, ce que vous choisissez, mais il ne faut pas zapper tout le temps, quoi. On peut être pour un temps, par exemple, dans telle paroisse. Je veux dire, vous avez sûrement ça chez vous aussi, des gens qui...
Non, nous, tout le monde reste chez nous.
Non, mais je crois que ça peut être bien de faire un peu de tourisme, quoi.
Oui.
Mais il faut quand même creuser son sillon, quoi. Donc, je dirais presque ça pareil pour un bouddhiste ou pour un musulman. Je dirais, si vous voulez devenir chrétien, d'accord. Mais on peut aussi creuser son sillon. Il ne faut pas être aujourd'hui bouddhiste, demain musulman, après chrétien, puis revenir au communisme ou je ne sais pas quoi. Il y a un moment, il faut se fixer quand même. On se dit, bon, ben voilà, ça sera mon chemin, et puis je vais creuser ça, quoi. Et puis ensuite, bon... Non, oui. Tu ne crois pas ?
Oui, oui, ça me fait penser au Dalai Lama. Vous savez que le Dalai Lama est une figure extrêmement bien vu en Europe, hein, en tout cas en Europe. Et il est venu en France une fois, il n'y a pas très longtemps, et on l'interviewait en disant, mais savez-vous qu'en France, il y a beaucoup de jeunes qui... Et il disait, mais c'est pas bien. Il disait, moi, je suis pas pour que plein de gens... D'abord parce que s'ils sont chrétiens, ben c'est bien. Qu'ils cherchent leur sagesse dans le christianisme, mais qu'ils ne croient pas que d'aller dans un truc asiatique, nanana, ça va... Voilà. Et je me souviens par ailleurs aussi de grands saints qu'on interrogeait en disant « Mais est-ce qu'on doit venir chez vous ?» etc. qui disaient « Non, non, non. Là où Dieu vous a appelé, ben restez-y. Faites ce que vous avez à faire là. Mais ça ne sert à rien. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais non, ben voilà, vous retrouvez là. Et ben faites ce que vous avez à faire là où vous êtes. »
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de sagesse. Oui.
Donc on tâtonne un peu, on cherche un peu au début,
oui,
on tâtonne un peu,
d'accord, qu'on...
c'est normal. Il
c'est
faut aller visiter, voir ce qui nous correspond
bien.
Mieux, puis après,
bon,
on creuse
curieux.
Ça. Ensuite, bon, on a le droit de changer. Il ne faut pas tout le temps zapper d'un machin un truc. Bon, ils restent dans un village, ils arrivent, ils choisissent une maison, ça va à peu près, ils restent, quoi. Puis ensuite, bon, ils vont ailleurs.
Voilà, il ne faut pas s'incruster, mais...
Ouais. Voilà, il ne faut pas zapper. Il y a un moment, quand même, il faut un peu se fixer. Et puis ensuite, bon, on peut passer à autre chose après, mais je crois quand même, voilà. Enfin, je ne sais pas, moi, je peux éventuellement voir cette piste-là pour ça. C'est vrai que... Et je trouve que ça fait contraste avec après, parce que leur prédication... On ne sait pas très bien le contenu de leur prédication,
non.
Finalement. Il y a marqué dans ma traduction, ils prêchèrent la repentance. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la traduction qui était...
En fait, ils proclament pour la conversion, en vue de la conversion.
En fait, c'est plutôt ça, voilà. Mm. Ils prêchent afin qu'ils se convertissent, en vue de la conversion. C'est-à-dire, c'est quand même... ils prêchent de façon à ce que les gens entrent dans une certaine mobilité, finalement. Voilà.
Une disponibilité,
un cheminement.
Une ouverture.
Dans un cheminement. Mm. Un cheminement, que tout d'un coup, ils se mettent à chercher Dieu et se mettent dans un cheminement. Ça, on retrouve ce que dit l'évangile selon Jean, quand Jésus est présenté comme étant le chemin.
Oh.
C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on voyait avant, c'est peut-être pas une maison dans laquelle on entre et puis voilà, on est au but.
C'est l'adresse.
C'est plutôt un cheminement. Voilà.
C'est une route qui s'ouvre.
C'est une route. En même temps, autant là, il y a une prédication qui est en vue d'un cheminement, c'est pour ça que je verrais bien un contraste avec le verset 10 où il y a marqué, bon, c'est vrai qu'il faut être dans un cheminement, une remise en cause, mais quand même, il ne faut pas tous les matins tout changer
d'adresse.
Il faut quand même un cheminement, c'est quand même il y a quand même une constante, il y a quand même, enfin je veux dire, si je puis dire, il y a quand même une certaine direction. Bon, on choisit de chercher Dieu sur un certain mode. Il faut avoir une certaine mobilité, une remise en cause, une certaine capacité à évoluer. Mais ce n'est pas du zapping effréné aux quatre points cardinaux, quand même, je crois. Voilà. Alors ensuite, la prédication, il n'y a pas marqué, voilà, il faut être porteur d'une parole, ils ont bien appris par cœur un catéchisme et que je te débite mes petits dogmes. C'est quand même autre chose. C'est-à-dire que on rejoint l'autre et on se dit, voilà... En quoi est-ce que peut y avoir une parole qui fasse choc, peut-être, qui pose question, machin, mais la personne que j'ai en face, ça va lui donner envie de se dire, tiens, mais il faut peut-être que j'évolue, voilà. Il faut peut-être que je cherche, il faut peut-être que je creuse. Donc, il n'y a pas de catéchisme tout cru qui va marcher, la formule magique, en disant que, voilà, crois que Jésus est ton sauveur personnel, à ce moment-là, quelque part, tu es au bénéfice de quelque chose de magique. Non, c'est pas ça. C'est tout d'un coup qu'on ait envie de chercher, de creuser, de prier, etc. C'est plus mettre la personne dans un état d'esprit de mobilité, de disponibilité, comme tu disais, à évoluer. Voilà. Et ça, je crois que c'est... Que c'est ça, il faut trouver ce mot-là, mais c'est un mot qui sera différent pour chaque personne. Alors, tout d'un coup, voilà, il chassait beaucoup de démons. Donc ça, c'est un côté peut-être négatif de chasser des démons. C'est peut-être là que le bâton sert à quelque chose. Un bâton, en tout cas, un bâton spirituel, un bâton par la parole. Des fois, il y a des... Ben, on pourrait dire toutes les précompréhensions, les mauvaises compréhensions, toutes nos idolâtries. Je parle pas de celle des autres, chacun, je veux dire, chacun sa paille et sa poutre, hein, mais on a nos idolâtries, nos sortes de doudous qu'on crispe, je veux dire, frénétiquement contre notre sein pour se dire j'existe, j'existe. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque part, il y a un moment, il y a des démons à chasser à l'intérieur de nous-mêmes, et je crois qu'un des grands bénéfices quand même de la foi chrétienne et d'une démarche de conversion, c'est d'arriver à se libérer déjà d'un certain nombre de démons. Alors quand c'est présenté comme un démon, c'est comme quelque chose qui est vivant en nous, mais qui n'est pas vraiment nous. Mais je crois que c'est ça, finalement. C'est sympa de présenter les choses comme ça, parce que cette part mauvaise qui est en nous, hein, à la limite, Dieu nous dit, mais en fait, ce n'est pas vraiment toi.
C'est un corps étranger.
Et ça, c'est sympa quand même, je dirais, comme façon de voir, parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu en moi. Mais, donc, je trouve qu'il est sympa de nous présenter les choses comme ça. Je ne crois pas que ce soit une sorte de créature néfaste, négative, qui vienne nous parasiter. Je ne crois pas que ça existe, ça, moi, les démons, les machins qui viennent rentrer dans le corps. Je ne crois pas à l'existence de ces puissances infernales, machin, non. Il y a du démoniaque dans l'homme, c'est ce qui est chaotique. Ça peut être de la souffrance, ça peut être de l'angoisse, ça peut être des préjugés, ça peut être des choses que je... des sortes d'idoles que je me construis pour me rassurer, ça peut être tout un tas de... voilà, tout un tas de bazar. Mais c'est un peu de moi-même, c'est un peu des choses que je me construis, c'est un peu des choses comme ça, ça peut être des souffrances, enfin voilà. Donc... c'est comme des choses dont je ne suis pas maître, qui sont comme si elles étaient vivantes indépendamment de moi, mais en fait, c'est quand même une part de moi-même. Alors ça, c'est le côté négatif. Il y a des choses à débarrasser, ça, je crois. Donc, bah oui, on le voit, hein, quand Jésus chasse des démons, c'est pas spécialement rigolo, quoi, non ? Il y a... c'est un arrachement quand même, non ? C'est un arrachement, hein. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours dans la délicatesse non plus. Mais quand même, le reste, c'est plus sympa. Il oignait d'huile, ça c'est vraiment, c'est un peu comme l'imposition des mains dont je parlais tout à l'heure, c'est un acte de création, mais voilà, là on irait presque un sacrement, c'est-à-dire que le sacrement dans nos religions, c'est ce geste de bénédiction. C'est comme si quelque chose était donné par Dieu, mais d'invisible avec ce geste. Bon, le geste peut déjà dire quelque chose de visible, mais avec l'huile, la matière de l'huile, c'est peut-être... ça aide peut-être, parce que du coup, c'est un contact physique, quelque part. On dit, voilà, cette bénédiction, c'est pas simplement un truc abstrait, c'est pas simplement... voilà, c'est... cette bénédiction de Dieu, elle est bien réelle, elle est grasse, elle touche notre peau, et puis avec... toute la riche symbolique de l'huile dans ces pays méditerranéens, c'est l'huile de la lampe qui éclaire, c'est l'huile qui guérit les blessures, c'est l'huile qui nourrit, qui est la base de l'alimentation méditerranéenne, c'est l'huile qu'on met dans les moyeux de charrette pour que ça avance bien, c'est l'huile dans laquelle on conserve les sardines, qui, du coup, touche à la vie éternelle. Non, c'est un peu l'idée, ça, de conserver. Donc, c'est, voilà, cette onction d'huile, ça évoque tous les dons de Dieu pour nous, pour nous guérir, nous ressusciter, ouais, nous donner la vie.
Tout à fait. Alors, comme il est temps de conclure, nous allons... je regardais la feuille que nous avons devant nous, et... je ne sais pas si tu as fait exprès, Marc, mais je trouve que, comme par un fait exprès, les deux colonnes, je trouve, se répondent assez bien, justement. Et si l'on regarde bien ce verset 13, ce verset final de cette partie, disons, du chapitre 6, nous avons un peu la réponse à l'échec de Nazareth. C'est que, d'une certaine manière, ce qui n'a pas marché avec Jésus tout seul, et c'est pas mal, en fait, voilà. Ce qui n'a pas marché avec Jésus tout seul dans sa patrie, etc., eh bien, marche avec les disciples, où l'on les voit justement mettre en acte, deux par deux, ce que Jésus leur dit de faire dans ces maisons, et réussir ce qu'il ne peut plus faire à Nazareth, c'est-à-dire jeter dehors des démons, donc à la limite éliminer ce côté mauvais qui les avait empêchés à Nazareth de reconnaître en leurs frères et amis le plus que prophète que nous avions, nous, reconnu, et puis donc pouvoir oindre de nombreux, à Nazareth c'était peu d'infirmes, les guérir en leur imposant les mains. Et là, eh bien, de nombreux infirmes, vraiment beaucoup, 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 toujours avec Jésus. Sauf qu'il n'est plus en direct avec ses frères qui n'arrivent pas à le reconnaître, mais il est à la tête, si j'ose dire, il est le maître de ses disciples qui suivent vraiment sa parole et qui peuvent réussir là où lui-même s'était heurté à l'incrédulité, à la foi. Et je crois que c'est, pour terminer, c'est une belle invitation. Et ben, parce que nous, on n'y arriverait pas tout seul, hein, ça c'est sûr. Alors, allons-y deux par deux, marchons sur la route, et puisque c'est bientôt Noël, voilà, allons-y joyeusement, et ça marchera si on respecte bien toutes ces paroles, et si on suit le chemin, voilà. Alors, en tout cas, merci et bravo à tous ceux qui ont réussi à venir ce soir, malgré les intempéries terribles. Et puis, on se retrouve début janvier. Alors, ça sera à Saint-Eustache. Alors, je ne sais pas s'il y aura 3 mètres de neige devant la porte. Mais en tout cas, on chauffera bien la salle des colonnes. Et donc, on pourra continuer le 5 janvier. Donc, notre route des cités bibliques, quitter Nazareth pour aller du côté de Jérusalem et puis poursuivre le chemin.
C'est Jésus qui fait des reproches aux villes, Matthieu 11.
Voilà. Alors là, ben, on va voir que c'est pas si simple non plus. Hein. Et oui, Capharnaüm et tout ça. Enfin bon. Mais on change de ville et puis on approche de Jérusalem. Bonne fête. Merci, bonne de fin d'année.